Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. L'impatience des restaurateurs d'Île-de-France. Ils espèrent du conseil de défense qui se tient aujourd'hui une réouverture plus rapide de leurs établissements. La frilosité des voyageurs pour cet été en France. La SNCF se voit d'annuler 5% de ses TGV faute de réservation et malgré des prix attractifs. Dans ce journal, le portrait d'une femme puissante, la sœur du leader nord-coréen.
Et au micro d'Ali Badou dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'essayiste et journaliste Caroline Fourès.
France Inter.
Stop ou encore, l'exécutif est désormais pressé de toutes parts d'aller plus vite et plus loin dans le déconfinement, Laurence. Et peut-être Emmanuel Macron en dira-t-il davantage dimanche aux Français à la télévision.
Car tout en haut de la liste, il y a des impatients. Ce sont les restaurateurs et les cafetiers d'Île-de-France. Pour eux, en zone orange, la réouverture se limite aux terrasses et ceux qui n'ont qu'un espace intérieur, eh bien, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le calendrier du gouvernement a été basé sur un assouplissement éventuel au 22 juin, mais un conseil de défense prévu ce matin à l'Élysée pourrait faire bouger les lignes plus rapidement, d'autant qu'en attendant, Faustine Calmel, certains prennent quelques libertés.
Près de la mairie du 18e arrondissement à Paris, le café Jules étend ses tables sur le trottoir, 75 couverts en tout.
Mais ça se passe très très bien. On a plus de monde que prévu.
À tel point que le gérant Gaëtan propose aussi des places côté intérieur, sur l'estrade, derrière les baies vitrées ouvertes.
C'est dehors, dedans, ça me fait 15 places de plus. Bon, c'est plus pour les anciens qui n'aiment pas trop le vent, le bruit. Je les mets un peu à l'intérieur, ils sont protégés.
Quelques rues plus loin, la brasserie Bélanger peut, elle, accueillir 80 clients en terrasse.
Je veux servir les moulades, s'il vous plaît, un réconfort.
Et c'est plein, midi et soir. Alors Charles Pérez a aussi ouvert les grandes fenêtres.
Au début, on ne les avait pas utilisées, ces places-là, et puis on a rapidement vu que tous les restos de Paris le faisaient. Donc on a décidé de les faire, mais elles sont quand même espacées de bien 2,5 mètres. On a des policiers qui sont venus et qui ne nous ont pas fait la remarque.
Pas vu, pas pris, et puis le patron profite d'un certain flou réglementaire.
Ce qu'on demande dans le protocole sanitaire est parfois pas très très clair. Donc on sait très bien ce qu'on a le droit de pas faire, mais ce qu'on a le droit de faire, c'est pas parfaitement mentionné. Donc en l'occurrence, ces tables qui sont devant la fenêtre, c'est pas dit qu'on n'a pas le droit dans les faits de l'utiliser.
Charles Pérez espère de toute façon rouvrir l'intérieur de sa brasserie rapidement et il attend des précisions d'Emmanuel Macron dimanche soir.
Et voilà un décret qui était attendu par les restaurateurs. À compter d'aujourd'hui, il sera possible de dépenser 38 euros en tickets resto. Le gouvernement double le plafond jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux salariés d'utiliser leur cagnotte accumulée depuis 3 mois. Dans la série des redémarrages chaotiques, peut-être avez-vous reçu un SMS ces derniers jours indiquant que votre train réservé pour l'été, pour vos vacances, était supprimé. La SNCF a commencé cette semaine à annuler des trajets faute de réservation suffisante. 15% seulement pour juillet, 6% pour le mois d'août, 2 fois moins qu'habituellement. Explication de Maxime Deps.
Pour expliquer ces suppressions, la SNCF invoque des questions de rentabilité. Si elle ne veut pas perdre d'argent sur la circulation d'un train, la compagnie doit avoir dans ses wagons un taux d'occupation garanti d'au moins 60% jusqu'à 80% pour les Ouigo. Or, en ce moment, les clients hésitent. Faut-il prendre le risque de se rendre sur un lieu de vacances si derrière hôtels et restaurants sur place ne peuvent pas recevoir? En cela, la parole du président dimanche est attendue avec impatience par le staff de la SNCF afin de lever les incertitudes et d'amorcer la suite. Seuls 5% des trains sont aujourd'hui concernés par ces suppressions, minimise toutefois l'entreprise, avec des clients invités à se reporter sur un train 2 heures avant ou 2 heures après celui qu'ils avaient choisi, de manière à optimiser les trajets. L'échange, l'annulation se font sans frais et on trouve sur Internet des billets parfois moins chers qu'ils ne l'étaient au moment du premier achat, soutient la SNCF. Des offres à 49 euros et moins sont proposées depuis le début du mois, apparemment pas suffisant pour convaincre les Français de reprendre le train.
Et c'est le même scénario dans les airs, des vols fantômes mais réservés. Air France, qui prévoit d'assurer 35% de son programme habituel en juillet et 40% en août, est confronté à la colère de clients qui ont déjà réservé des billets sur des vols qui ont été annulés. La compagnie explique qu'elle adapte en temps réel son réseau et ses fréquences en fonction de la demande et des réouvertures de frontières. L'économie mondiale reprendra moins vite qu'espéré. L'euphorie boursière est retombée. Les bourses mondiale ont cédé à la peur. Elles ont vécu leur pire séance hier depuis 2 mois et demi. Le Dow Jones a perdu à New York hier près de 7%. Selon la Réserve fédérale, l'activité américaine ne devrait pas revenir à la normale avant le courant de l'année 2022. Un autre secteur est touché de plein fouet par la baisse d'activité, le secteur aéronautique. Et De Richbourg, l'un des plus gros sous-traitants d'Airbus, devrait signer aujourd'hui un accord de performance collective pour limiter les suppressions d'emplois. Et la direction, Stéphanie Glaisis, demande aux salariés de renoncer à certains avantages.
De Richbourg Aéronautique Service est un sous-traitant de premier plan pour Airbus, présent sur les principales chaînes de montage de l'avionneur. Philippe Faucard, délégué UNSA aérien, dénonce cet accord de performance collective qui va impacter les salariés et qui arrive trop tôt.
Le fait majeur, c'est la suppression des indemnités de transport, la suppression des indemnités repas avec en compensation des tickets restaurants à hauteur de 60% payés par l'employeur. Le 13e mois du mois de juin qui sera repoussé en novembre et la perte définitive du 13e mois pour les salariés 2,5 fois le SMIC, donc à 3 800 € brut.
Jean-Marc Moreau, secrétaire du syndicat FO, majoritaire dans l'entreprise, estime avoir sauvé l'essentiel.
Tous les CDI seront sauvés, pas de licenciement économique avant juin 2022. On espère que d'ici là, l'activité sera repartie à la hausse. On a quand même une aide au départ pour les personnes les plus âgées. On maintient le salaire des salariés au chômage partiel à hauteur de 70% brut, 84% net, quel que soit l'engagement que l'État prendra derrière.
Les syndicats qui contestent ce plan craignent la généralisation de ce type d'accord qui réduit les acquis sociaux dans de nombreuses entreprises du secteur aéronautique. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Il nous a lâchés et jetés en pâture. La colère des policiers ne retombe pas à l'égard de leur ministre Christophe Castaner. Ce dernier tente de désamorcer la crise après les syndicats de policiers. C'est au tour des officiers, des commissaires d'être reçus au ministère de l'Intérieur pour parler entre autres des techniques d'interpellation. Et ce témoignage rare à présent, celui d'un policier qui a été entendu par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Elle est souvent accusée de partialité ou de ne pas être assez transparente, surtout dans les manifestations de ces derniers jours. Alors comment se déroule une enquête IGPN? Comment le vivent les mises en cause? C'est un témoignage recueilli par Ariane Grissel.
Ce policier, appelons-le Eric, est régulièrement mobilisé sur des manifestations. Un jour, un homme l'accuse de coups pendant une interpellation et saisit la justice.
J'ai appris ça par le biais de mon service où j'ai reçu une convocation IGPN, quasiment 8 mois après que les faits se soient produits. J'ai donc relu mon PV pour me remettre à jour sur les faits.
Le jour J, Eric attend d'abord dans une salle. Il raconte s'être demandé ce qui allait se passer, puis vient l'interrogatoire par un officier de l'IGPN.
Les différentes techniques qu'on a pu utiliser, est-ce que l'individu a été menotté debout, au sol, le plus de détails possible. Il me demande si je me reconnais dans les individus qui étaient décrits par la personne. Donc en l'occurrence, oui.
Le policier dit être sorti de l'interrogatoire.
Plutôt pas confiant, même si je sais que je n'avais rien fait. Une fois qu'on est sorti, on comprend pourquoi on les appelle les bœufs carottes. Parce qu'on est vraiment cuisiné plusieurs mois après les faits.
2 mois plus tard, Eric est confronté à l'homme qui l'accuse, lui et 3 de ses collègues. En parallèle, des vidéos sont exploitées et les versions des fonctionnaires comparées les unes aux autres.
On est dans l'attente, sans avoir strictement aucune information. Et j'ai reçu, 6-7 mois après, le retour comme quoi le magistrat ne poursuivait pas parce que, au vu de l'enquête IGPN, je n'avais rien à me reprocher.
Un dossier clos, 1 an et demi après l'interpellation mise en cause.
France Inter, il est 7h40. Suite et fin du journal, Laurence Thomas.
2 ans déjà, le 12 juin 2018, Donald Trump et Kim Jong-un signaient à Singapour un document sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 2 ans après ce sommet inédit et malgré 2 autres rencontres, les lignes n'ont pratiquement pas bougé. L'Occident s'interroge désormais sur l'émergence d'une figure du régime, Kim Yo-jong, sœur du dictateur nord-coréen. Elle a annoncé cette semaine la coupure de toute communication entre les deux Corées, une personnalité bien mystérieuse, Bertrand Galichet.
De cette jeune femme d'une 30aine d'années, souvent présentée un peu vite comme la dauphine du dictateur nord-coréen, on sait surtout ce que le régime veut bien en montrer. Antoine Bondaz, directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Au sein du régime, elle est vice-directrice d'un département en charge du culte de la personnalité de Kim Jong-un, le département de l'agitation et de la propagande du Parti des travailleurs de Corée. Elle ne fait donc pas partie du leadership vraiment de plus haut niveau en Corée du Nord, mais surtout, elle apparaît avant tout en soutien à son frère. Elle a un rôle de plus en plus important, mais elle est loin d'être la numéro 2 du régime. Sa légitimité, elle la tient avant tout du caractère dynastique de sa personnalité. C'est la petite sœur de Kim Jong-un.
Difficile d'imaginer que Kim Yo-jong accède aux plus hautes responsabilités dans une société aussi patriarcale, mais depuis qu'elle a représenté le régime aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en 2018, la Corée du Nord l'utilise de plus en plus pour sa communication internationale. Ses interventions officielles sur les relations entre les deux Corées ne sont jamais des initiatives personnelles.
Bertrand Galichet, nouvelle étape de notre tour de France du déconfinement touristique. Carcassonne, là le tourisme n'a pas encore redémarré, tant du côté des boutiques de souvenirs que des hôtels ou des restaurants, car on attend la réouverture du château médiéval. Elle devrait intervenir la semaine prochaine, mais avec beaucoup moins de visiteurs que d'habitude, Philippe Lefebvre.
Dans les ruelles de la cité, des bruits de pas sur les pavés mouillés marquent la présence de quelques visiteurs. Le temps semble suspendu. Le château n'ouvrira que dans 4 jours, le temps d'organiser les sens de visite et de procéder à quelques aménagements.
On a nettoyé les barrières au bois et tous les rubanes.
Et pour Christophe Varenne, l'administrateur du château, pas de doute, les visiteurs seront moins nombreux que d'habitude.
Alors aujourd'hui, on table sur une jauge maximum de 1500 visiteurs par jour, contre 5 à 6 habituellement.
Toutefois, cela pourrait être une bonne chose pour les touristes, prédit Amancio Requena, qui prépare la réouverture.
C'est quasiment l'intimité du château à laquelle on pourra accéder. Je ne sais pas si à l'avenir, on pourra jouir de pareilles quiétudes et d'intimité avec le monument durant cette période estivale.
Mais la cité médiévale de Carcassonne ne devrait pas recevoir cette année ses 2 millions de visiteurs habituels. Les ambitions de Gilles Clémente, le directeur de l'Office du tourisme, sont d'ailleurs bien plus modestes.
Ça serait bien si on arrive à 20%, si on fait 30%, tant mieux, mais ça on le verra plutôt vers la fin de l'été. Et en même temps, le coronavirus sera plutôt derrière nous. Donc on risque d'avoir un très bel automne.
Et cet été, il faudra impérativement réserver ses places sur Internet pour découvrir la cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et c'est la fin du journal de Laurence Thomas.